Chers auditeurs, bonjour. Vous êtes sur Radio Courtoisie dans le Libre Journal des Beaux-Arts. Donc aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir comme invité Nina Guetta.
Merci.
Thème de l'émission, Nina Guetta chante Barbara.
Bonjour.
Bonjour. Et donc, on va expliquer pourquoi elle chante Barbara, mais d'abord, je vais quand même vous la présenter.
Avec plaisir.
Donc, musicienne depuis l'âge de 15 ans, Nina a commencé par des études de guitare classique avec Pedro Ibanez, qui l'ont amenée à découvrir la musique brésilienne et lui ont donné l'envie de chanter. De nombreux concerts s'en suivent, ainsi que l'enregistrement de deux albums avec le guitariste Hervé Urtré. Je fourche pas sur le nom.
Non.
Voilà, ça. Donc Nina a commencé la musique à l'âge de 15 ans.
Tout à fait.
Et la guitare. Et pourquoi alors
Comment
vous êtes venu à la musique alors, en fait?
Donc la guitare.
Il y a toujours un début. Hein.
Oui, tout à fait. Donc la guitare. En fait, il y avait une guitare qui traînait à la maison. Mon frère aîné, qui a 5 ans de plus que moi, pratiquait la guitare, plutôt du blues, du rock. Et donc, à un moment donné, j'ai commencé à me saisir de cet instrument, puis à déchiffrer des morceaux, je me rappelle, de Maxime Le Forestier.
Ah oui.
Et je commençais tout doucement à les jouer sur la guitare.
Mais à l'oreille?
Oui, d'oreille, sans prendre de cours. Enfin, j'avais pas de formation musicale, en dehors de celle qu'on nous enseigne à l'école. Et petit à petit, je me suis prise d'engouement pour cet instrument et j'ai décidé de prendre des cours de guitare classique au conservatoire de la ville que j'habitais, à Drancy, en fait. Et voilà, j'ai commencé par un apprentissage classique, comme beaucoup d'enfants, grâce au conservatoire qui existait à l'époque. Et donc, ça a été un apprentissage de guitare classique. Donc, mon premier prof s'appelait Max Pelta, je me rappelle. Et par la suite, bon, j'étais musicienne, je pense, fondamentalement. J'étais bonne élève. J'ai toujours travaillé de façon très assidue. Et par la suite, Max Pelta m'a remise entre les mains d'un très très bon, d'un maître de guitare avec lequel j'ai continué mon cheminement, qui s'appelle donc Pedro José Ibanez. Et avec lui, j'ai gravi des montagnes au niveau de la découverte et de l'apprentissage de la guitare classique.
Un grand guitariste.
Un très grand guitariste. Il est à la retraite, nous sommes amis toujours, nous nous voyons de temps en temps.
Bien sûr.
C'est un grand monsieur et c'est un maître de guitare qui est connu, enfin, de... Des guitaristes classiques, c'est un nom qui est... Enfin,
Le nom me parlait.
Alors, il ne faut pas confondre avec Paco Ibanez, mais c'est Pedro José Ibanez, mais en fait, c'est un très, très grand guitariste classique. Voilà, donc, j'ai fait tout un apprentissage de guitare classique. Et nous avons été amenés à faire des stages de guitare, de musique, en Espagne. Enfin, on a traversé des...
C'est arrivé très vite, ça? Du moins de l'âge de 15 ans, l'Espagne, c'est arrivé à quel âge?
Non,
à 20 ans?
C'est arrivé au-delà de 20 ans, effectivement.
Mais c'est rapide quand même.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Mais il faut jouer tous les jours.
Il faut jouer tous les jours. De toute façon, c'est pas une contrainte quand...
Quand on aime.
Oui, tout à fait. C'est un besoin.
C'est ça.
C'est un besoin. Donc j'avais la chance de pouvoir m'exprimer sur mon instrument de musique afin de faire passer toutes les émotions qui nous traversent dans la vie, surtout quand on est adolescente, qu'on rentre dans une vie qui est tout sauf calme et assez tumultueuse. Donc le fait d'avoir la chance, comme tout artiste, hein, je ne suis pas exceptionnel, je suis comme beaucoup d'artistes qui se saisissent de leur capacité à exprimer leurs émotions au travers d'un art, quel qu'il soit. La peinture, le sport aussi, pourquoi pas.
Le sport, bah, tout à fait.
Le sport, et moi, ça a été la musique. Et donc, effectivement, j'ai eu la chance d'être inspiré par cet instrument.
En fait, ce qui compte, c'est la passion.
C'est la passion. On a de la chance d'avoir une passion.
Tout être humain a une passion cachée. À savoir.
Parfois, elle est bien cachée.
Elle est profonde. Mais on peut se découvrir à tout âge, en fait.
Oui. Non, mais effectivement.
Mais en fait, c'est la passion qui anime.
Oui. Ah oui, tout à fait.
Le besoin de pouvoir pratiquer son art, quoi.
Oui,
en fait.
Tout à fait. Et effectivement. Et,
sans passion, il n'y a rien, quoi.
Eh ben, c'est vrai que c'est un. Comment dire. Avoir la chance d'être habité par une passion, c'est un moteur dans la vie. Et ça nous permet de gravir aussi des montagnes.
Ça vous permet d'avancer,
d'avancer, oui.
Et puis d'y croire.
Ça stimule. Il y a toujours une très bonne énergie qui existe. Et comment dire, c'est une chance. C'est
les
une chance parce
Nina,
que tout le monde n'a pas de passion.
De la passion de
tout, tout le monde n'a pas de passion. C'est une chance dans la vie d'être habité par une passion parce que. Enfin, je le ressens de cette façon-là. Après, pourquoi, pour quelle raison, j'en sais rien. Mais moi, ça m'a permis effectivement,
c'est
au travers
ça,
de la musique, de rencontrer pas mal de personnes, et au travers de l'apprentissage de la guitare classique et de toute la pratique, j'ai été amené à rencontrer des musiciens férus de guitare. Et notamment féru de guitare brésilienne.
Alors, la guitare brésilienne, quelle est la différence avec ce que vous avez appris en fait?
Bon,
c'est pas les mêmes accords.
Non, c'est pas un univers total.
Donc déjà, l'instrument lui-même est différent?
Non, c'est la musique brésilienne, la façon qu'ont les Brésiliens de chanter, de s'accompagner à la guitare. C'est un univers qui m'a progressivement enveloppé. Et qui a pris la place
sur la guitare classique.
Sur la guitare classique, en fait, parce que
il faut passer quand même par la guitare classique au début, quoi.
Alors moi, je ne jouais pas de guitare. Disons que l'apprentissage, la découverte de la rencontre avec ces musiciens de musique brésilienne m'ont donné envie de chanter, en fait, parce que en fait, j'avais un timbre de voix qui était bien adapté à la musique brésilienne. Au timbre de musique brésilienne telle qu'on les entendait, et c'est une musique qui me bouleversait particulièrement. Et donc, je me rappelle notamment à l'un des stages de guitare, il y avait un ami, Angelo, qui jouait quelques morceaux de musique brésilienne que j'avais en tête, et je me suis mise à les chanter avec lui, et ça a été le départ.
C'est là que le chant est venu.
C'est là que
Parce qu'avant, il n'y avait pas de chant.
Non, avant, il n'y avait pas de chant.
Et pourquoi vous avez commencé à chanter?
C'est un besoin qui s'est installé petit à petit et qui m'a permis d'exprimer encore autre chose et par le biais de la voix. Et donc j'avais pas pris de cours de chant. Il y avait tout un apprentissage et je me rappelle que cet ami Angelo m'a dit à un moment donné, il serait bien que tu prennes des cours de chant parce que j'avais aucune.
Vous n'avez jamais pris de cours de chant?
Donc à l'époque, quand j'ai commencé avec Angelo, je n'avais pas du tout d'apprentissage du chant. Et donc, c'est lui qui m'a fait rencontrer ma première prof de chant, qui a été une prof de chant classique, Catherine Napoli, je me rappelle. Et donc, j'ai appris régulièrement, sur tout mon parcours musical autour du chant, qui a pris le dessus sur toutes les autres passions, en fait. J'ai régulièrement pris des cours de chant classique, principalement classique, avec différents professeurs.
Donc là, c'est compliqué, là, quand même.
Oui, mais après, c'est une technique.
Il faut savoir poser sa voix, les aigus, les bas.
Ça se travaille comme tout instrument. C'est-à-dire quand
c'est
un
instrument de musique,
oui,
la voix.
Oui. Donc, quand on a la chance d'être accompagné par des bons professeurs, et qu'on est assidu et qu'on travaille aussi, parce que, bon, il faut travailler, mais c'est un plaisir que de travailler aussi quand on est animé par cette passion. Et donc, c'est petit à petit, ma voix s'est développée. Et c'est conforté, donc je suis mezzo-soprane, au niveau de mon timbre. Et je me rappelle de la réflexion que je me suis faite à l'époque quand j'ai suivi ces cours de chant classique. J'ai des cycles de 2 ans, 3 ans à chaque fois avec les professeurs avec lesquels qui m'enseignent le chant. Je me suis dit, bon, là j'ai fait un parcours avec cette prof-là, il faut que j'arrête parce que j'ai pas envie de trop m'épurer la voix, qu'elle devienne trop classique. Je veux garder mon identité et mon timbre. Donc, ça a donné j'ai eu ce réflexe-là et ça a donné les fondations pour déjà poser la voix, la développer. Et c'est une excellente technique.
Alors ça, le chant, c'est une chose. L'instrument, c'est une autre. Mais pour accorder les deux, c'est
alors,
encore autre chose.
Oui. Alors
encore une autre démarche. Hein.
Alors je joue pas. Je chante très rarement en m'accompagnant parce que avec la guitare.
Vous accompagnez pas vous la guitare.
Alors à certains moments j'ai commencé à m'accompagner, mais le problème que j'ai avec la guitare, c'est que lorsque je joue de la guitare sur scène, je suis prise d'un trac terrible.
C'est vrai?
Qui n'est pas celui que je ressens quand je chante. J'ai toujours le trac quand je monte sur scène. Mais je me rappelle qu'au travers des récitals de guitare classique que j'ai pu faire, pour moi, ça a été les plus grandes frayeurs de ma vie. Parce que, bon, il fallait travailler, mais j'avais toujours peur du trou de mémoire au niveau de l'interprétation des morceaux que je jouais. Mmh. Et on est toutes, j'étais toute seule sur scène.
Et vous n'aviez pas de partition?
Non,
vous
non,
apprenez par cœur les partitions.
Oui. Et je jouais toute seule, toute seule. Et donc, ça fait partie des...
Toute seule sur scène. Un public important.
De taille relativement moyenne, importante. Hein.
Ouais, mais c'est pas voilà. Mal quand même.
Oui, tout à fait. Mais cette peur-là n'a pas été présente de cette façon-là au travers de la pratique du chant. Parce que d'ailleurs, quand je chante, je ne suis pas toute seule. Donc, je suis accompagnée de musiciens. Il y a des musiciens. Et rien que cet environnement, cette...
Une protection.
Cette amitié qui se tisse avec les musiciens fait que... Même si le trac est là et que j'ai... Dans le trac, en fait, ce que j'appréhende à chaque fois, c'est le trou de mémoire, en fait. Parce que j'apprends toutes mes chansons. Pour moi, il est important de pouvoir se détacher du texte et
ça
de ne pas avoir...
Ça peut arriver.
Oui. Donc c'est... Mais je suis beaucoup plus solide psychologiquement au travers de la pratique du chant sur scène que je ne l'étais au travers de la pratique de la musique... Enfin, la guitare classique, en fait. Voilà. Donc du coup, effectivement, cet aspect-là étant beaucoup plus confortable et très, très, très satisfaisant de chanter, d'être accompagné par des super musiciens. Donc, ça a pris le dessus sur mon parcours musical, en fait. Voilà.
Donc, là, c'était la chanson brésilienne.
Oui, la chanson brésilienne.
Qui a duré combien d'années?
Ouf, elle dure encore.
Elle dure encore?
Oui, elle dure encore. En fait, pour la petite histoire, j'ai rencontré mon mari, Hervé Hurtré, en 91, donc ça remonte à un certain temps.
Il y a quelques années, quoi.
Il y a quelques années, pour former un trio de musique brésilienne.
Ah oui, donc lui, il est guitariste.
C'est un très bon guitariste. Et donc, on a commencé à jouer ensemble en trio avec un bassiste. Et c'est en 91 qu'on a commencé à vraiment monter sur scène dans des restaurants, des cabarets, des... Entre-temps, en fait, je m'étais constitué un très, très gros répertoire de musique brésilienne, car j'étais absolument passionnée par cette musique. C'est une musique qui me plaît beaucoup.
Qu'est-ce qui vous passionne dans la musique brésilienne? C'est la fête?
C'est la saudade, comme on dit. Il y a un sentiment permanent qui émane de cette musique quand on l'écoute. C'est la saudade.
Césaria Evora, quand vous voulez.
Alors, Césaria Evora, c'est le Cap-Vert, c'est encore différent, mais il y a des ponts entre... le Brésil et le Cap-Vert en termes de musique, mais c'est une musique qui est très langoureuse, beaucoup de nostalgie, beaucoup de soleil aussi, beaucoup de lumière, et cet idiome, le brésilien, le portugais brésilien, est une langue qui me plaît beaucoup, en fait. Donc j'aimais beaucoup prononcer cette langue. Et donc, à l'époque, pour la petite histoire, quand j'ai commencé à apprendre des textes...
C'est déjà une langue
pas,
qui chante un peu. Hein.
Oui, qui est extrêmement chantante. Mais j'apprenais les textes des chansons que je voulais interpréter de façon absolument phonétique. Je ne comprenais rien du tout. Je ne comprenais... Et j'ai appris les textes, mais sans rien comprendre. Bon, c'était comme ça.
Et après, au départ.
Ah oui, au départ.
Et après non.
Après, j'ai eu la possibilité de me procurer tous les textes et après, je me suis mise à apprendre, comprendre.
C'était pas difficile l'intonation de dire les mots. Enfin.
Je pense que j'avais.
Parce que le portugais, c'est quand même pas évident. Hein.
Je pense que j'ai fait beaucoup d'espagnol. J'étais assez féru de langue hispanique, en fait.
Ouais.
Donc, je pense que j'avais le bagage qui me permettait de pouvoir apprendre, apprendre ces langues de façon confortable.
Parce
voilà.
Parce que moi...
Oui.
Non.
Ça serait plutôt...
le français, l'anglais, quoi. Bon, voilà, mais bon, c'est classique.
Alors, je chante
quoi.
En anglais, mais j'ai pas un très bon accent.
C'est classique. Hein, bon, voilà.
Oui. Mais effectivement, le brésilien, c'est une langue qui est merveilleuse, qui est chantante, qui est...
Parce que moi, je suis allé beaucoup en Espagne. Ça fait quand même pas mal d'années
déjà. En Espagne, c'est encore autre chose.
Et Bon, j'ai beaucoup entendu parler espagnol,
oui.
J'y suis allé souvent.
L'espagnol, c'est très chouette, mais c'est très différent
du portugais.
C'est très différent.
Hein. C'est pas du tout la même langue. Hein.
Et c'est très différent du brésilien.
Entre le brésilien et le portugais, il y a encore une différence.
Très différent.
L'intonation, peut-être.
Oui, l'intonation, la musicalité de la langue, c'est
parce
très différent.
Parce qu'au Brésil, tout le monde chante là-bas,
tout le monde danse au Brésil. Oui, puis quand...
Les artistes, beaucoup de guitaristes,
Tom Jobim, les chanteuses, Maria Bethania, Gaetano Veloso, Gilberto Gil.
C'est quand même très bon ça.
Oui.
Je connais bien.
C'est une musique qui est absolument merveilleuse et qui est effectivement très ensoleillée, très chaleureuse, très lumineuse. Voilà, donc effectivement, je me suis engouffrée dans cet univers. Et donc au départ,
c'était donc des concerts. Mm. Et après, il y a eu des albums de fait.
Oui, donc parce qu'avec donc Hervé, mon mari, on joue en trio. Puis petit à petit, notre formation s'est étoffée avec un super saxophoniste qui s'appelle Didier Forger et un batteur qui s'appelle Vincent Legris. On a formé un quartet.
Ah, vous avez un vrai orchestre.
Un véritable orchestre. Et donc, on était amené, car on baignait vraiment dans cet univers, on a été amené à réaliser des concerts de musique brésilienne avec danseuses, capoeiristes, tout ça. Enfin, moi, c'était extraordinaire. C'était très, très festif.
Et les répétitions se passaient où?
Chez nous. Parce qu'on a... à la maison.
Vous avez un studio d'enregistrement?
Oui, on a un studio. En fait, disons qu'on a acheté notre maison autour de sa structure qui nous offrait un sous-sol de 25 mètres carrés tout à fait dédié à notre studio de répétition. Quoi. Donc, effectivement, on répétait à la maison. Voilà. Et puis après, effectivement, on a décidé de faire un album. Et donc, ces deux albums qu'on a fait, Aquarela do Brasil et Viramundo, nous, en fait, dans le groupe, personne n'est d'origine brésilienne. Mais nous avons tous des influences diverses et variées et des amours de la musique diverses et variées. Donc, nous sommes saisis de cette musique et nous l'avons interprétée aussi à notre façon. Nous l'avons jouée à notre façon. Donc, ce ne sont pas des albums purs de musique brésilienne comme à l'image.
Il y a votre patte aussi.
Voilà. Donc, c'est vraiment une interprétation et c'est très...
C'est ça qui est intéressant, en fait.
Oui, c'est très intéressant.
C'est pas copié-collé, quoi.
Oui, c'est très intéressant. Et donc, ils sont disponibles sur toutes les plateformes aussi. Enfin, voilà. Donc, ils ont été distribués et ils sont disponibles
sur toutes les
plateformes.
Donc, ça, c'est les deux premiers albums de votre carrière musicale.
Oui.
C'était en quelle année, ça? Voilà.
Alors...
Après 91.
Oui, bien sûr. Je crois que Viramundo, je crois que c'était en 2010.
Ah oui, bon, c'est pas si vieux.
C'est pas si vieux que ça. Mais ça commence.
Hein.
Oui, tout à fait. Oui. Et Aquarela do Brasil, c'était bien avant. Voilà l'histoire. Le parcours qui m'a amené au chant. Et à l'apprentissage du chant techniquement et à la pratique de la musique brésilienne qui a définitivement orienté ma façon de chanter.
Mais il y a eu un... alors l'album, c'est Aquarela...
Do Brasil. Oui.
Donc ça, c'est le premier album.
Oui.
Ça. Donc là, il y a votre mari qui joue, là.
Sur les deux albums, c'est Hervé, mon mari, qui joue, effectivement.
Viramundo. D'accord. Et là,
magnifique,
donc c'est
magnifique.
Alors, c'est des compositions à vous ou c'est...
Non, c'est des interprétations.
Des interprétations.
Oui. Donc,
mais
ce sont des titres
avec votre patte, quoi. Voilà.
Oui, tout à fait.
On est bien d'accord. Et après la musique brésilienne, un jour, il y a eu la chanson française.
Ah,
c'est arrivé comment ça?
C'est arrivé.
Parce qu'en fait, vous connaissez la chanson française, c'est sûr. Hein.
Oui, mais je la pratiquais pas. En fait, j'entendais, mais j'avais pas envie particulièrement de la chanter.
Vous chantiez en portugais?
Oui, je chantais en portugais principalement. C'était obsessionnel. Je n'avais envie de chanter qu'en portugais, enfin qu'en brésilien. Voilà.
Comme ça.
Oui, tout à fait.
Incroyable.
Et donc je chante. Enfin, on pratique toujours. On est artiste du Club Med avec mon mari, donc on voyage dans des villages, on pratique la musique dans des soirées privées, dans différents contextes.
Vous êtes connu maintenant quand même.
Je sais pas ce que ça veut dire d'être connu,
mais
non, peu importe, mais effectivement on a un métier, on a un bagage et ce qu'on fait, bon, tout est relatif, hein, mais c'est très intéressant.
Là, vous pouvez faire maintenant un concert.
Ah oui, sans problème.
C'est-à-dire combien de temps un concert?
Deux
heures?
Une heure et demie. Enfin, un concert, c'est une heure et demie, une heure et quart, une heure et demie. Puis après, quand on joue dans des soirées, Bon, c'est différent, ça peut être plusieurs fois, une heure, en fait, ça dépend de la structure de la soirée. Est-ce que
Donc quand vous jouez, il y a un guitariste, contrebassiste,
alors,
je pense.
Bassiste ou contrebassiste parfois.
Un bassiste aussi?
Non, s'il y a contrebassiste, il n'y a pas bassiste.
Ah, d'accord. Ouais.
Voilà, donc batteur, guitare, basse, batterie, voix et sax. Voilà,
et piano,
quand on joue.
Pas
ça nous est arrivé de jouer avec un pianiste, mais donc principalement le quintet qu'on avait, c'était cette structure-là. Et puis sinon, on est très autonome. Enfin, ça, c'est quand on faisait des concerts avec le quintet, mais sinon, on est très autonome avec mon mari Hervé et on joue en duo, principalement au Club Med, en fait, et parfois en trio. Donc on est très, très autonome et on se connaît bien. Donc lui à la guitare. Qui fait tous les arrangements et moi au chant, donc voilà, donc c'est donc on joue maintenant principalement en duo tous les deux parce que c'est beaucoup plus facile de décrocher des contrats en duo aussi, c'était difficile aussi de aussi hein, il y a le contexte actuel et surtout c'est beaucoup plus facile à mettre en place et on est
au niveau de la logistique peut-être.
Oui, au niveau de la logistique et puis voilà et puis après tous les musiciens au fil du temps bah, ont pris des chemins différents. Donc, même si nous sommes toujours amis, voilà. Mais il y a des séparations qui se font. Voilà, tout à fait. Mais donc, nous, on continue toujours à jouer en duo et ça fonctionne. Tout est relatif.
Ça fonctionne bien.
Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien.
Très
parce
bien.
Oui, parce qu'il y a une véritable symbiose entre lui et moi. Enfin, donc c'est. Et puis, il y a le fait de se connaître et de savoir de quelle façon l'autre va réagir, comment il interprète, tout ça. Donc, c'est un véritable duo. C'est une véritable symbiose.
Alors, en fait, après, vous êtes intéressé à la chanson française.
Oui, parce qu'effectivement.
Comment c'est venu ça
Disons qu'au travers des soirées qu'on faisait, on nous a demandé parfois d'ouvrir notre répertoire et de ne plus faire que de la musique brésilienne. Donc ça m'a obligé à me sortir de ma zone de confort parce que moi j'étais bien dans cet univers de musique brésilienne, mais donc pour répondre à la demande, il n'y avait pas le choix comme je voulais chanter de plus en plus. Donc petit à petit, on a intégré dans notre répertoire de la variété internationale, de la chanson française. C'est la première fois que j'intégrais enfin de la chanson française dans mon répertoire. Et donc c'est venu de cette façon-là. Et donc les premier thème qu'on avait commencé à interpréter, c'était des thèmes Sous le ciel de Paris, Hier encore, d'Aznavour, La Bohème, des chansons bien connues qui traversent le temps et qui sont toujours aussi appréciées, quelles que soient les générations. Et donc, petit à petit, ça m'a plu.
Il y a eu un déclic.
Il y a un déclic, petit à petit, et puis je me suis rendu compte que je prenais de plus en plus un immense plaisir à chanter en français, ce que je ne faisais pas.
Pas du tout.
Que je ne faisais pas. Voilà. En concert, non. Voilà. Et je me suis réapproprié. Je ne sais pas pourquoi, c'est ainsi va la vie. Mais donc, j'ai pris un plaisir de plus en plus grand à enfin chanter en français. Et je me suis rendu compte qu'au travers de l'usage de ma langue natale, eh bien, la façon d'exprimer les émotions et de chanter était
différente. Le portugais.
Différente. Parce que le portugais, c'est pas ma langue natale, donc je la maîtrise pas comme ma langue natale. Et donc, pour la transmission des émotions, l'interprétation des textes, eh bien, je me suis rendu compte que j'y prenais de plus en plus de plaisir. Et là, je m'oriente. Enfin, donc ça s'est mis en place petit à petit. Et donc là, je privilégiais un répertoire de chansons françaises parce que c'est un chemin qui s'est progressivement dessiné, dans lequel je me suis engouffré, qui est le mien actuellement.
Attendez, je reçois un message. Alors, je lis. Bonjour madame, connaissez-vous cette grande dame, Maria Grueza?
Creusa, oui, tout à fait, en fait.
Alors,
parce qu'effectivement, dans les albums mythiques de musique brésilienne qui ont été ceux que j'ai achetés à l'époque, il y avait un album avec Maria Creusa.
Cette dame?
C'est une chanteuse, une chanteuse. Et donc, elle était...
Je ne connais pas, c'est pour ça que je pose la question.
Oui. Donc, elle faisait partie des premiers albums que j'ai achetés de musique brésilienne que je me suis procuré et que je me suis repassé en boucle de façon permanente.
Donc c'était bien.
Ah oui, oui, oui. Donc c'était, c'est vraiment l'anthologie de la musique brésilienne.
Ah, d'accord.
Et donc, voilà, tout à fait, tout à fait.
Donc vous la connaissez,
oui,
alors?
Oui, 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 oui. Bah, en fait, j'ai toujours ces albums à la maison. Donc, ouais. Alors, il y a un album de fond noir et puis un album de mémoire vert. Mais bon, après, je me rappelle plus parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas ressorti. Mais effectivement, ça a commencé avec cet artiste-là. Tout à fait.
Ça a commencé là.
Oui, ouais, oui, tout à fait.
C'est bien, donc.
Oui, tout à fait.
Voilà, chers auditeurs.
Oui, tout à fait.
Nina vous a répondu. Avec grand plaisir. Donc, on était à la chanson française.
À la chanson française.
Alors, vous êtes... la chanson française, c'est venu progressivement. C'est pas mal quand même, interpréter des textes français. Il y a des grands auteurs en France. Quand
Oui, magnifique, magnifique, magnifique.
Zavour, Brel.
Magnifique, 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 magnifique.
Et c'est venu progressivement. Et puis après, vous aviez pris goût. Et puis, vous avez commencé à faire un album aussi. Enivrez-vous, c'est ça?
Alors, en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que...
Vous avez d'abord fait des concerts en français?
Donc, on a intégré, on a intégré avec mon mari dans les concerts que nous interprétons, enfin que nous faisions pour les soirées privées, publiques, de plus en plus de chansons françaises. Et j'avais de plus en plus envie de chanter. Mon mari n'avait pas la disponibilité suffisante pour m'accompagner sur tous les fronts et m'a recommandé m'a mis entre les mains d'un autre musicien qui s'appelle Yann Viette, que j'ai rencontré, avec lequel j'ai décidé de travailler, en fait. Donc, je l'ai rencontré par hasard. Est-ce qu'il y a un hasard dans la vie? Je ne sais rien. En tout cas, nous nous sommes rencontrés. Et il a été d'accord pour prendre le relais de mon mari dans la continuité
De ce que vous faisiez.
De ce que je faisais. Et comme lui est particulièrement féru de chansons françaises, on a décidé de construire ensemble un répertoire de chansons françaises et je me suis mis en parallèle du travail que je faisais avec mon mari à travailler avec cet artiste, Yann Viette, qui est un excellent guitariste avec une musicalité extraordinaire. Et c'est la première fois que je jouais avec un autre musicien que mon mari.
Et alors ?
Et donc, je me suis rendu compte que c'était une très très belle ouverture parce que, en fait, j'avais peur un petit peu au départ parce c'est un guitariste de très haut niveau et moi, je ne me sentais pas à son niveau. Je sentais un décalage psychologiquement et j'avais peur de ce qui allait se passer, de quelle façon la symbiose se mettrait en place. Et en fait, ça a très très bien fonctionné parce que musicalement et émotionnellement, on a un mode de fonctionnement assez semblable dans la façon d'interpréter les morceaux. Et donc, il y a une belle alchimie qui s'est développée. Et donc, j'ai pris un immense plaisir à travailler avec lui et à construire ce répertoire, effectivement. Donc, nous sommes rencontrés, je crois, en 2018. Mmh. Et on a commencé à travailler ensemble, il me semble, vers 2018. Et à un moment donné, nous sommes construits un très très beau répertoire constitué...
La chanson française ?
Oui, constitué de morceaux de Aznavour, Gainsbourg, Brassens, Barbara. C'est la première fois que je chantais une chanson de Barbara.
C'est une émission, Nina Guetta chante
Barbara. Dis quand reviendras-tu ? Voilà, ça a été la première fois.
Et c'est dans Enivrez-vous, c'est ça?
Oui.
Enivrez-vous, c'est le l'album de chansons françaises.
Oui, qui s'appelle Enivrez-vous.
Le thème est bien trouvé. Pourquoi
Enivrez-vous, c'est un poème de Baudelaire.
Oui, oui.
Donc mis en musique par Yann Viette, et dont le thème me plaisait bien. C'est une façon de...
Mis en musique, ça veut dire qu'il a composé la musique.
Il a composé la musique.
Ah oui, quand même.
Oui, 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 oui.
Oui, quand même.
Ouais, c'est très, très chouette comme morceau. Et donc, effectivement, on a fait cet album de chansons françaises. Donc, le titre est Enivrez-vous. J'étais passé sur votre émission. Cet album est sorti en décembre 2023. Et donc, voilà. Donc, on y a interprété des poèmes mis en musique. Et Baudelaire, Guillaume Apollinaire... c'était très sympa. Effectivement, des auteurs tels que, comme je vous l'ai dit, Brassens, Aznavour, qu'est-ce que j'ai dit encore ? Brassens, Aznavour, Barbara. Donc. Et effectivement, Barbara était la seule femme que j'interprétais dans cet univers masculin. Et je me suis.
Et là, c'est là que vous avez interprété la première fois un morceau de Barbara.
Oui, dis quand reviendras-tu.
Dans l'album Enivrez-vous.
Oui, oui, oui. Donc, dans cet album Enivrez-vous, le seul morceau de Barbara est dit quand reviendras-tu. Et je me suis rendu compte qu'en concert, quand j'interprétais Barbara,
comparativement. Dit quand reviendras-tu, c'est.
Ouais, ouais, c'est un très,
très bon.
C'est.
Oui. On peut le passer, non?
Ou selon l'ordre que vous désirez, en fait, il n'y a pas de souci.
Oui. C'est dit quand reviendras-tu, c'est en troisième. Oui, on peut le passer.
Qui est celui qui est en troisième position? Ok.
Dit quand reviendras-tu. Voilà.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps tu verras, je serai de retour. Le printemps c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. S'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. De voir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire et comme la rengaine, je vais, je viens, je vire, je me tourne, je me traîne, ton visage me hante, je te parle tout bas et j'ai le mal d'amour.
Face à l'offensive de la gauche pour bâillonner les médias vraiment libres, Radio Courtoisie a plus que jamais besoin de vous pour se renforcer, pour se protéger, pour défendre vos idées. Vous êtes 1,5 million, presque 2 millions à nous écouter, mais vous n'êtes pas encore 20 000 à nous donner. Vos idées valent bien 1 euro. 1 euro pendant l'été, pourquoi pas 1 euro par mois? 1 euro pour garantir vos idées. 1 euro contre la censure. 1 euro pour rester libre. Cet été, aidez Radio Courtoisie à donner de la voix. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris. Radio Courtoisie, libre et indépendante, grâce à vous.
Vous êtes sur Radio Courtoisie, dans le Libre Journal des Beaux-Arts. Donc aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Nina Guetta. Thème de l'émission, Nina Guetta chante Barbara. Donc on est sur Barbara, on est arrivé à Barbara. La musique brésilienne, la passion de la musique brésilienne, qui est toujours d'ailleurs
oui, une qui
passion.
Est toujours,
hein.
Oui.
Et puis après la passion de la chanson française. Et un jour, dans le dernier album Enivrez-vous, vous avez chanté une chanson de Barbara. Et puis là, il y a eu un déclic.
Oui, exactement, parce qu'en fait c'était la...
Barbara, c'était une chanteuse française, bon,
oui.
On connaît. Hein,
pas... Tout à fait. Voilà. Et parmi tous ces interprètes, tous ces auteurs que chanteurs que j'interprétais, Barbara était la seule femme que j'interprétais dans mon album Enivrez-vous, et je me rendais compte que et les retours que j'ai eus sur scène quand j'interprétais Barbara étaient particulièrement chaleureux.
Et, bah Barbara, oui, c'est pas étonnant, donc, c'est pas étonnant.
Oui, oui, mais après c'est disons que ces textes m'ont permis de peut-être plus particulièrement exprimer toutes les émotions que je ressens en fait. Et donc effectivement, il se dégage une émotion particulière lorsque j'interprète ce répertoire. Mais je vous laisse en parler.
Alors on a écouté Dis quand reviendras-tu. Donc je précise aux auditeurs que c'est Nina Guetta qui chante. Hein. Oui. Elle a une voix extraordinaire, magnifique. Hein.
Merci.
Donc Barbara est venue à la chanson, enfin à la chanson comment? Parce qu'en fait c'était, elle a tourné dans un film que Jacques Brel a mis en scène, France. Il a fait France, le Far West, et puis un autre film. Il a mis en scène France et Barbara jouait dans ce film et elle composait déjà et elle voulait que ce soit Jacques Brel qui chante ses chansons. C'est Jacques Brel qui lui a dit non, toi tu chanteras des chansons. Et c'est comme ça qu'elle est venue. Ben, qu'on connaît Barbara, quoi.
Oui.
Et
elle souhaitait chanter malgré tout, depuis sa plus tendre enfance.
Mais oui, elle chantait, mais elle avait peur été... de chanter en scène, ouais, enfin, de se mettre en scène. Elle voulait que ce soit d'autres personnes qui interprètent ses, ses textes. Hein.
Oui, oui.
Donc Monique Cerf. Hein.
Oui, ouais, Monique Cerf, son prénom d'origine.
Vous l'avez rencontrée, Barbara? Non.
Non, je ne l'ai jamais vue sur scène. Jamais vue sur scène. Mais bon, voilà. Enfin, quelque part, je l'ai rencontré au travers de ce qui se passe actuellement, la découverte de son répertoire. Enfin, comme tout un chacun, et selon les générations, je connaissais Barbara, je connaissais certains de ses thèmes qui sont les plus connus. Enfin bon. Mais je n'avais jamais imaginé qu'un jour, j'aurais envie
de chanter Barbara.
Et puis oser, parce que quand même, c'est une artiste, mais tellement immense,
bien sûr.
Tellement extraordinaire que lorsque, effectivement, à la suite de l'interprétation de « Dis quand reviendras-tu », puis sur scène, on a commencé à intégrer d'autres chansons de Barbara à mon enfance, qui est un thème mais absolument splendide. Mmh. Donc on a décidé avec Yann Viette de monter un répertoire spécifique à Barbara. Spécifique à Barbara, et je voulais quelque chose de très épuré, parce qu'effectivement, lui est guitariste. Je joue souvent avec Olivier Soubéran, qui est le bassiste violoncelliste avec lequel nous produisons quand nous interprétons la chanson française. Et donc je voulais quelque chose, en termes d'album, un album très très épuré. Donc c'est un album réalisé à la guitare et au violoncelle, sur des arrangements de Yann Viette, qui en est le directeur artistique. Mmh. Et donc, c'est comme ça que cette aventure a pris forme, et je me suis petit à petit mise à découvrir des textes de Barbara que je ne connaissais absolument pas.
Vous ne les connaissiez pas du tout?
On connaissait l'aile noire, on connaît la petite cantate, mais sinon les autres, mon enfance, je ne connaissais pas, Drouot, les titres m'interpellaient, mais je ne les connaissais pas plus que ça. Et donc on a sélectionné petit à petit un certain nombre de titres qui constituent l'album, donc 15 titres dans l'album, qui sont absolument splendide, mais que j'ai découvert et qui me donne... c'est une nouvelle aventure pour moi que maintenant d'interpréter ce répertoire-là, car je...
C'est une aventure, hein.
Oui, c'est une aventure, et puis...
Interpréter Barbara...
Oui, puis oser, comme je le disais, est-ce que je ne sais pas où je m'engage, mais après la passion et le désir prenant le dessus, je me suis dit, on y va, et ça a été un pur bonheur que de construire ce répertoire, et maintenant...
Sont toutes magnifiques, ces chansons.
Elles sont magnifiques. Et là, donc, il y a une quinzaine de titres qui composent l'album, et je continue à en apprendre d'autres, car c'est un réservoir inépuisable de textes, mais plus splendides les uns que les autres.
La musique,
les textes. La musique. Et
c'est
donc,
une très bonne pianiste, hein.
Nous l'interprétons. C'est encore... Nous ne refaisons pas du Barbara, car ce n'était pas du tout le désir que de reproduire. Enfin, on ne peut pas reproduire du Barbara, de toute façon, c'est hors de question. Donc, on ne se positionnait pas sur ce terrain-là, mais c'était s'approprier les textes et la musique et les interpréter à notre façon. Et donc, pour pouvoir me détacher le plus possible de la façon qu'avait Barbara d'interpréter ses chansons. En général, j'écoutais ses chansons une ou deux fois pour mémoriser la mélodie. Mmh. Et après, Je laissais de côté, enfin je ne voulais plus du tout écouter les Barbara chanter ses chansons pour ces textes-là, pouvoir me les approprier et
que ça soit votre personnalité qui ressorte.
Oui, effectivement, que ce soit mon filtre émotionnel qui me permette de le restituer à ma façon.
Quelle est votre technique pour apprendre des textes et puis après les chanter, quoi, en fait.
Je ne sais pas comment je fais.
il faut apprendre le texte.
Oui, j'apprends les textes.
Et après, vous allez sur scène, vous n'avez pas le texte devant vous, vous les apprenez par cœur. Et vous apprenez combien de chansons par cœur? Une vingtaine?
Là, en fait, si je compte toutes les chansons que je connais par cœur en intégrant les musiques brésiliennes...
Comment vous faites pour retenir tout ça?
Chacun exerce sa mémoire sur des sujets qui lui sont propres. Donc chacun...
Je trouve ça assez fabuleux quand même.
Oui, mais après, c'est un exercice en fait. C'est un exercice. Plus on apprend, plus j'apprends des textes, plus il m'est facile de les apprendre et de les retenir. Donc... pour l'instant, ça fonctionne comme ça. C'est une mécanique, ouais, c'est une mécanique. Les premiers concerts, j'avais effectivement les textes sous les yeux, mais en fait, comme filet de secours. Mais je me rendais compte que je pouvais pas les regarder pendant que je chantais parce que ça me déconcentrait. Et donc, petit à petit, je m'en suis détaché, mais j'ai toujours un peu cette peur au fond de moi. Mais ça demande, par contre, un travail énorme en dehors des concerts. De répétition et de répétition.
Combien d'heures de répétition par jour?
Ça dépend. Enfin, quand il y a des concerts, effectivement, il y a un travail beaucoup plus intensif qui se met en place régulièrement, tous les jours, de façon quotidienne. Puis après, quand il n'y a pas de concert tout de suite prévu, c'est le travail plutôt de la voix que je...
C'est a cappella, alors?
Oui. Mais sinon, en fait, on a notre studio de répète à la maison. Donc, je répète avec... en étant amplifié, parce que le son de la voix amplifié est différent du son simplement a cappella. Et donc, ça permet d'entendre mieux ce qu'on est susceptible de... produire sur scène, en fait.
D'accord.
Donc, effectivement, je me repasse son répertoire en boucle de façon permanente. Ce serait mentir que de dire que je le fais de façon quotidienne, mais très, 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 très souvent. Et parfois même, je fais beaucoup de marches, le long de la Marne, en fait, des marches solitaires parce que j'aime bien. Et je me repasse les morceaux de Barbara, je les chante dans ma tête. Pas que dans ma tête. D'ailleurs, les personnes qui me regardent passer me voient chanter. Parce que, il faut.
C'est pas courant.
On devrait
le faire un peu plus, ça.
Oui. Mais donc, c'est une façon de. De s'imprégner en permanence de ces textes pour avoir, une réserve de sécurité pour gérer le trac qu'on peut avoir sur scène et affronter ce qui pourrait me déstabiliser sur scène et générer peut-être des trous de mémoire. Donc c'est un travail... très intensif au niveau de la mémoire et de la pratique des morceaux.
Il y a longtemps que vous avez commencé Barbara
Alors Barbara, non, il n'y a pas très longtemps. Non, il y a pas très... Je dirais il y a 2 ans.
Il y a 2 ans, oui, c'est récent.
Oui. L'album Enivrez-vous est sorti en 2023.
Là, il y avait un seul titre de Barbara.
Oui. Donc, il est sorti en 2023 et là, donc, en juin 2026, j'ai sorti cet album sur Barbara. Donc, il y a 3 ans qui se sont écoulés. Donc, je dirais 2 ans et demi. J'ai dû commencer vraiment à m'atteler dès la sortie de mon précédent album à nous constituer un répertoire autour de Barbara. Donc, ça a été assez rapide et obsessionnel, hein, on dira ça comme ça.
Quand on voit Barbara sur scène, il y a une magie qui se dégage.
Ouais.
C'est un peu magique.
Elle nous enveloppe.
C'est magique. Hein.
Oui.
On est enveloppé.
Oui. Elle nous transporte dans ses émotions à elle. Et puis...
Ça doit compter, ça, pour l'interprétation chez vous, ça. Parce que vous avez regardé des vidéos où elle chante...
Non. Alors, j'en ai vu. Enfin, effectivement, quand j'ai décidé... Enfin, quand les titres ont été sélectionnés, j'ai effectivement vu les vidéos où elle interprétait ses chansons. Donc, effectivement, on la voit très partie. aussi dans ses chansons, au niveau du regard, au niveau de sa façon de les interpréter. Et moi, j'ai ma façon... Alors, j'ai des fois, vous pourriez voir sur mes chaînes YouTube... Enfin, c'est relatif, hein, tout est relatif. Hein, je ne me comparerai jamais. Mais voilà, j'ai une façon de me les approprier et de voyager dans l'univers des textes qu'elle a su construire et qui sont fabuleux et qui traduisent toutes les émotions de la vie et qui nous permettent, enfin en tout cas, qui me permet à moi et je pense à beaucoup d'autres, d'exprimer toutes les émotions qui nous traversent. Donc, comme je disais, en fait, elle parle de... Bon, ces textes sont particulièrement nostalgiques. Bon, il y en a...
Il y a des messages dans ces textes, c'est que ça. Hein,
oui, oui. Alors, il n'y a pas que ça. Les insomnies, Joyeux Noël. Enfin, bon, il y a des chansons qui sont guillerettes.
Je pense qu'elle avait plein d'humour.
Oui, 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 c'est possible. C'est possible.
Je ne l'ai pas connue, mais bon.
C'est possible. Mais, comme je disais, en fait, elle interprète toutes les émotions de la vie. La tristesse, l'amour... Le chagrin, le désespoir, mais jamais de haine. C'est-à-dire qu'elle...
Non, elle n'est pas...
Jamais de haine.
Jamais de haine.
Jamais de haine.
Et c'est vrai.
Et ça, c'est extraordinaire, car c'est quelque chose...
Surtout qu'elle a connu des moments
terrible
sa vie. Hein.
Terrible, terrible. Et donc, jamais de haine. Et donc, ces textes sont empreints d'amour, quels qu'ils soient, quels que soient, malgré tout, les émotions qu'elle traduit. Et donc, c'est... Je ne sais pas pourquoi, peut-être que ça a résonné particulièrement en moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis d'exprimer aussi toutes ces émotions qui sont en moi, à ma façon. Car c'est à ma façon, je ne suis pas Barbara, je ne serai jamais Barbara, évidemment. Bah. Mais voilà, c'est évident. Mais donc, au travers de mon filtre émotionnel, je restitue ces textes qui sont fabuleux. Et c'est une façon pour moi aussi, pourquoi
pas. C'est une façon de ne pas l'oublier.
Effectivement,
de réinterpréter des grands auteurs comme
de
ça.
Perpétuer son, de perpétuer ses textes.
Mais c'est très bien.
Oui, oui, tout à fait. Et ça peut permettre avec, effectivement, au travers des arrangements qui sont les nôtres, qui sont teintés de mon côté de ma culture brésilienne en termes de timbre
et
des influences jazzy des musiciens qui m'accompagnent, mais tout en respectant, en ne dévoyant pas... La culture musique, enfin, comment dire, je ne sais pas quel mot utiliser, mais en ne dévoyant pas la culture musicale de Barbara, on en fait une interprétation, nous en faisons une interprétation qui, en tout cas, qui résonne en moi et qui, au travers des concerts que j'ai pu faire, qui touche particulièrement les personnes, en fait. J'ai réussi, dans les quelques concerts que j'ai faits, j'espère qu'il y en aura plein d'autres, parce que c'est une aventure.
Vous avez fait combien de concerts sur Barbara ?
Pour l'instant, j'en ai fait juste 3. Après, je fais beaucoup de répétitions, voilà, je travaille beaucoup. Et il y en a d'autres qui sont prévus, d'autres en gestation, j'attends que les contrats soient signés.
Donc, chers auditeurs...
Les programmations sont indiquées sur mon site, Nina.
Ah, d'accord, on peut voir les programmations.
Oui,
et on peut vous contacter aussi sur votre
tout
site.
Tout à fait, donc mon site c'est ninagueta.fr, ninagueta.fr. Et donc, il y a tout mon parcours musical.
C'est attaché, Nina Guetta ?
Oui, ninagueta.fr, oui, tout d'accord. à fait. Et donc, effectivement, il y a toute mon aventure musicale, tous les répertoires que j'interprète, la musique brésilienne, la variété internationale, et une page dédiée à Barbara, avec des vidéos réalisées en concert. Et effectivement, apparaissent sur le corps de texte, toutes les programmations.
Et comment le public a reçu l'interprétation de Nina Guetta de Barbara?
J'étais émerveillée car...
Parce qu'en fait, je dis interprétation, mais il y a aussi la patte de Nina Guetta.
J'ai été émerveillée par le...
Comment le public a reçu?
Ça a été extraordinaire pour moi. Ça a été des moments
des moments de grande joie.
De grande joie et de... d'émotions intenses, car il n'y avait plus un bruit dans la salle. Le public a été conquis, en fait. Le public qui est venu m'écouter a été conquis, en tout cas
tout
au travers. Tout de suite, je ne sais pas, au travers de l'interprétation. Puis à la fin du concert, c'était assez dithyrambique, en fait, les retours que j'en ai eus. Il y a des personnes qui avaient des larmes aux yeux, qui sont parties parfois
ça, je crois bien.
Qui sont parties même parfois au milieu du concert, tellement elles étaient émues. Donc, je ne fais que constater, et c'est pour moi une grande joie et quelque chose d'extraordinaire que de réussir à faire passer ces émotions-là et que les personnes les reçoivent.
Mais rendez-vous est pris, moi je veux bien venir voir le concert de Nina Guetta interprété par moi.
Avec grand plaisir. Donc ouais, effectivement,
ça sera vraiment un grand plaisir.
Les premiers concerts qui ont été déjà actés, en fait, qui sont en 2027, qui fêteront, entre guillemets, qui rendront hommage à Barbara pour les 30 ans de sa disparition en 2027.
Donc, déjà 30 ans.
Oui. Ouais. Donc il y a pas mal d'événements qui s'organisent cette année, je le vois. Il y a pas mal d'interprètes de Barbara, chacun le fait à sa façon et toutes les façons sont aussi belles les unes que les autres. Mais je vois qu'il y a pas mal d'événements qui s'organisent. Et donc moi j'ai un concert en janvier 2027 à Saint-Maur, au Théâtre de l'Abbaye à Saint-Maur, et en mars 2027 au Théâtre de Fontainebleau, voilà, pour interpréter Barbara. Voilà. Donc, et les autres programmations qui ne manqueront pas, j'espère, de venir implémenter le calendrier sur mon site, j'espère, seront nombreuses. Voilà.
C'est un souhait. J'ai un message. Bonjour à tous. Très belle émission. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Nina. Barbara, alors la question, Barbara a-t-elle chanté Paris? A-t-elle chanté Paris? Barbara a-t-elle chanté Paris?
Je ne sais pas.
J'avoue ne pas bien connaître son répertoire. On associe souvent Barbara à une voix fragilisée et souvent prête à se briser, ce qui accroît l'émotion chez l'auditeur. Qu'en pense votre invité? Bien cordialement.
C'est vrai.
Ah, que là, merci
déjà pour ce retour, qui est touchant, parce que effectivement, quand on écoute Barbara, c'est aussi le sentiment que j'en ressens. Cette voix à fleur de peau, et effectivement, elle a eu elle a mis sa patte en termes d'interprétation vocale, qui est unique et qui résonne avec tout un tas de vibrations et de fragilités qui permettent, comment dire, de faire exploser d'émotions les textes qu'elle a écrits, en fait. Donc effectivement, cette façon qu'elle a de chanter permet encore plus de nous toucher personnellement au travers des histoires qu'elle raconte, c'est vrai. Mais
et elle faisait la musique aussi. Hein.
Tout à fait. Et puis elle jouait très bien au piano.
Ah oui, elle joue très bien au piano.
Oui, tout à fait. Il m'arrive parfois aussi d'interpréter avec un pianiste.
Et alors,
aussi.
En fait, une période de sa vie, quand il y a eu le sida qui est venu, la maladie du sida, elle, Barbara, était... aller faire des concerts pour le sida.
Oui, oui.
Vous savez ça?
Oui.
Elle était très engagée, en fait.
Elle a fait ce qu'elle a pu avec les moyens qu'elle avait pour adoucir la peine des personnes qui souffraient.
Ouais. C'était une très grande humaniste. Hein.
Oui. Puis,
je pense que c'est une très bonne personne.
Je suis heureuse d'être rentrée dans cette univers.
Et alors, rentrer dans cet univers, la question, vous interprétez Barbara. Comment expliquer ça? Je vais prendre l'exemple quand on fait une copie d'un tableau de Van Gogh ou d'un autre peintre, de Rembrandt, tout ça. On arrive à rentrer, quand on fait la copie du tableau, si on veut que la copie soit vraiment bien réalisée, pas faire n'importe quoi, on arrive à rentrer dans l'univers du peintre et s'imaginer sa vie. Est-ce que c'est la même chose quand on interprète Barbara?
Alors,
mais c'est vrai, dans la peinture, c'est...
Je comprends. Pour être en symbiose, en fait.
Moi, il y a très longtemps, j'avais fait les prisonniers de Van Gogh, et quand on voit ce tableau, c'est extraordinaire. Enfin, moi, j'étais un peu comme vous, Barbara, j'étais scotché, quoi. Enfin, je veux dire... Et j'ai fait cette copie et je l'ai refait à deux fois. parce que la première fois c'était pas, et je voulais que ça soit vraiment vraiment très ressemblant quoi. Et je rentrais dans son univers quoi.
C'est oui.
Il y avait un message entre Van Gogh.
Oui. Et vous.
Et moi qui passais.
Tout à fait. Tout à fait,
mais
tout à fait.
Je ne peux pas expliquer. Hein, c'est.
Bah, j'avoue que.
Et je pense que c'est pareil là.
J'avoue que l'image de Barbara est présente à mon esprit de
bah,
façon
sûr, hein.
permanente.
Ah, oui.
Et je ne sais pas. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est voilà. le dernier voyage. Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris.
Ben voilà, voilà, je parle de Paris, là.
Voilà, oui.
voilà, je parle de Paris, là. Sans vouloir, ouais.
Oui, oui, non, mais
quelle
en fait,
voix, mais Nina, quelle voix, mais c'est extraordinaire.
Quand on rentre dans ces textes, moi, quelque part, je m'immerge dans
quelle
les
voix,
tableaux.
C'est fabuleux.
Dans les tableaux qu'elle a su.
C'est un tableau, en fait.
Oui, oui, oui.
C'est un tableau qu'elle fait.
Et hein. je laisse libre cours à mes émotions. Alors, j'ai une façon d'interpréter. Certains m'ont dit, ah, tu en fais trop. Il y a certaines chansons qui me procurent un peu de colère dans l'interprétation. Par exemple, Soleil Noir. Soleil Noir, qui est une chanson terrible et tellement transposable à ce que nous vivons actuellement dans
le
monde.
Il y a des messages quand même dans ces chansons. Hein.
Oui, 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 tout à fait. Et donc, quand je les interprète, quelque part, moi, il y a une colère qui émane de moi, maîtrisée parce que le tout est de pas exploser de colère en public non plus, mais je fais ressentir en fait une émotion qui est très très forte et donc j'ai une façon, je me suis approprié ces textes avec ma personnalité puis ma façon de les restituer. Donc effectivement il y a des chansons qui sont empreintes de nostalgie, de tristesse et on a tous des choses très tristes qui peuvent résonner en nous.
Tout à fait.
La perte de parents, la perte d'êtres chers et donc ouais. Je pense à cette chanson, Mon enfance. Oh ma mère, où êtes-vous? Où êtes-vous donc aujourd'hui? Vous dormez au chaud de la terre et moi, je suis venue ici pour y retrouver votre rire, vos colères et votre jeunesse. Je suis seule avec ma détresse. Hélas, quand elle parle de ça, j'ai des images.
C'est des larmes. C'est des images, bien sûr.
C'est terrible. Et donc, effectivement, j'ai trouvé dans l'univers de Barbara de quoi pouvoir épancher toutes les
émotions
qui l'habitent.
Donc, en fait, on peut dire que une phrase d'une des chansons de Bernard Lavilliers, la musique est un cri qui vient de l'intérieur.
Oui, oui, oui.
Ah, c'est un peu ça.
Heureusement qu'on a la possibilité de l'exprimer, ce cri, parce que s'il reste trop longtemps bloqué à l'intérieur de nous, ça peut faire du dégât.
Ah, ouais,
voilà.
on parlait d'amour, là, et je pense qu'on pourrait passer ma plus belle histoire d'amour.
Oui, c'est le titre que j'ai donné à l'album, en fait. Car, bon, voilà.
Ma plus belle histoire d'amour.
Voilà, ouais. Donc effectivement, oui.
Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lorsque j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut où j'étais précoce, de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou. Du plus loin qu'elles m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage, et j'ai tourné bien des pages, sans les lire blanches et puis rien dessus. C'est vrai, je ne fus pas sage, et mes guerriers de passage à peine fut déjà disparu. Mais à travers leur visage, c'était déjà votre image. C'était vous déjà et le cœur nu. Je refaisais mes bagages et poursuivais mon mirage. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Sur la longue route qui menait vers vous, sur la longue route, j'allais le cœur fou. Le vent de décembre me gelait au cou. Qu'importe décembre, si c'était...
Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie dans le Libre Journal des Beaux-Arts. Donc aujourd'hui, j'ai invité Nina Guetta. Voix extraordinaire.
Merci.
Donc, vous venez d'entendre une de ses interprétations de Barbara. Thème de l'émission, Nina Guetta chante Barbara, qui est d'ailleurs le titre de son album.
Le titre de l'album, c'est Ma plus belle histoire d'amour. Ma plus belle histoire d'amour, c'est le titre qu'elle a, que j'ai voulu donner aussi à cet album, qui intègre une quinzaine de chansons interprétées avec des arrangements originaux à la guitare et au violoncelle, voilà.
Donc je voulais juste faire une annonce, avant que je ne l'oublie, c'est pour une exposition de peinture à Chouzy-sur-Six, donc c'est à côté de Blois, et c'est salle de la mairie à Chouzy-sur-Six, et c'est une exposition de peinture qui a lieu du 3 septembre, qui commence le 3 septembre, voilà. Et c'est donc Françoise Icard, que vous connaissez bien, à qui on passe un immense bonjour, qui organise cette exposition de peinture. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, je vous invite à aller à Chouzy-sur-Six et à prendre des renseignements complémentaires pour cette exposition de peinture. Donc, je reviens vers Nina. Je vais couper la parole.
Je vous en prie.
Voilà. Donc, Barbara, donc le titre de l'album, c'est...
Ma plus belle histoire d'amour. Nina Guetta chante Barbara, mais le titre, c'est « Ma plus belle histoire d'amour », en fait.
Ah oui.
Car c'est un titre, c'est un titre universel. Elle, en fait, elle a dédié cette chanson à son public qui l'ovationnait, qui lui a manifesté des preuves d'amour au travers de ce qu'elle-même donnait. Et donc, à la base, cette chanson a été écrite pour le public. C'est un message d'amour dédié au public. Voilà, donc... c'est comme ça que je l'interprète aussi, et on peut le dédier aussi à ses amoureux, évidemment, en parallèle.
Ah oui, bon après, voilà, ça c'est...
Tout à fait.
Elle a beaucoup défendu donc, des causes humanitaires, hein, Barbara,
faut quand même
le savoir. Bon, le sida, bien sûr, elle a fait beaucoup de concerts dans les prisons aussi, prisons de femmes, c'est bien quand même,
oui,
franchement.
Oui.
C'est,
ouais.
Elle avait mais elle ne se mettait pas au devant de la scène.
Lors de ses
elle faisait ça. Quand elle faisait ses actions humanitaires, on ne voulait pas qu'on en parle.
Oui.
Elle était assez discrète.
Oui. Ce qui est tout à son honneur.
C'est tout à fait à son honneur. Elle n'était pas à la une du journal télévisé.
Oui.
C'est ça que je veux dire.
Oui.
Voilà. Et... donc là, vous avez fait quelques concerts de Barbara, deux, hein, on a dit.
Non, j'en ai fait trois déjà.
Trois
de concerts, donc effectivement. Ouais, j'en ai fait déjà trois, enfin l'année dernière.
Donc on lance un appel si... des organisateurs de spectacles vont être très certainement intéressés par votre spectacle de Barbara, c'est sûr.
Donc
ça peut pas être autrement.
Vous pouvez effectivement... naviguer sur mon site où il y a les liens YouTube. Donc c'est mon site ninagueta.fr, ninagueta.fr, où il y a également en fait donc tout mon parcours artistique et effectivement tous les différents répertoires que j'ai pu interpréter jusqu'à présent, dont une page dédiée à Barbara. Il y a ma chaîne YouTube sur laquelle il y a des playlists.
Vous avez une chaîne YouTube ?
Oui, j'ai une chaîne YouTube.
Donc c'est Nina Guetta.
Nina Guetta. Si on tape YouTube Nina Guetta, on doit tomber dessus.
On doit tomber dessus, logiquement.
On doit tomber dessus.
Oui, bien sûr.
Parce que je crois qu'il y a un suffixe dont je ne me souviens plus comme ça directement.
Non, on t'en parle le nom.
Mais donc, il y a différentes playlists. Donc, une playlist dédiée à Barbara avec des vidéos réalisées en concert. Voilà, et donc c'est l'album Ma plus belle histoire d'amour est disponible d'ailleurs sur toutes les plateformes et chez les disquaires, disponible à la Fnac, à Spotify, Deezer, YouTube. Donc il peut s'écouter sans aucun problème. Et l'album physique peut être distribué aussi, car j'en ai fait un certain nombre.
Faire des dédicaces
Oui, je peux faire des dédicaces. Et effectivement, 2027 traduiront les 30 années de l'envol de la disparition de Barbara vers les étoiles, ouais. Voilà, comme on disait. Donc pas mal d'événements s'organisent pour lui rendre hommage, chacun à sa façon. Et toutes les façons sont plus belles les unes que les autres, car tout le monde peut y trouver sa place dans la façon de lui rendre hommage. Et me concernant, ça sera au travers de concert de façon très très épurée. Donc effectivement, avec le trio, violoncelle, guitare, violoncelle, et parfois j'interprète aussi au piano aussi. Voilà.
Vous faites du piano?
Non, mais il m'arrive aussi de me produire avec un pianiste, Julien Collère, pour interpréter ce répertoire, car ça donne deux façons de pouvoir interpréter le répertoire, et ça permet de jongler aussi sur les disponibilités des musiciens qui m'accompagnent. Donc,
Nina
voilà.
Me donne envie de chanter. Je suis sérieux, hein, je rigole pas, hein, c'est sérieux. Hein, parce que j'aime beaucoup le chant, moi.
C'est un bon outil, le chant, pour... C'est thérapeutique.
C'est thérapeutique.
C'est thérapeutique, le chant. Ça procure un bien, mais immense, que de chanter. Et me concernant, ça me fait un bien immense, voilà, de chanter. J'en ai besoin. Et parfois, je casse les oreilles de mes accompagnants qui me disent ah! Donc, je m'isole parfois pour chanter. Et je leur ai dit parfois, vous vous inquiéterez le jour où je ne chanterai plus.
La question pour tout artiste, est-ce que la famille, elle suit derrière?
Oui.
Est-ce que vous avez soutien familial?
Oui, c'est super, c'est super.
Bon, déjà, vous avez un mari guitariste, hein, c'est gagné.
Pas que guitariste, c'est un mari extraordinaire. Plus de 30 ans que nous sommes ensemble.
Comment?
Plus de 30 ans que nous sommes ensemble.
Ah bah.
Oui. Et nos deux filles, tout ça. Non, oui, c'est de ce côté-là. C'est...
Et vos filles, elles font...
Bah, donc, chacune sur leur parcours respectif.
Voilà,
des domaines un peu plus... Enfin, pas sérieux, mais très différents. Je préfère ne pas parler d'elles pour respecter leur parcours. Mais... donc oui, je suis très soutenu par ma famille. Oui. Ils sont fiers, en fait.
C'est important pour un artiste.
Oui, tout à fait. Et c'est marrant de voir leur regard, parce qu'en même temps, même si je peux leur casser les oreilles parfois lorsque je chante en permanence, et là en ce moment je ne chante que du Barbara, donc ça tourne un petit peu en boucle.
J'ai vu.
Ça tourne un petit
quelle
peu
voix,
en boucle.
Quelle voix.
Je ne sais plus ce que je voulais dire. Que je voulais dire. Oui, donc...
Parler de la famille, quoi.
Oui, donc, effectivement, ils sont fiers de moi, c'est marrant. Ça me touche.
Ah bah,
ça me touche.
Minimum.
Ça me touche d'avoir ce regard de leur part. C'est ce que je voulais dire, parce que... Bon, donc voilà, je ne vais pas m'apesantir plus que ça là, sur ce sujet. Mais effectivement, ça me fait plaisir d'avoir ce regard de la part de mes proches et de tout ce qui est... lien charnel avec mon entourage, voilà. Et puis les amis aussi, voilà. Non, c'est agréable. Et puis je sens que il se passe en tout cas sur le plan émotionnel, il se passe vraiment une histoire particulière avec ce trajet que j'ai emprunté en désirant interpréter Barbara. Je sais pas où j'irai, jusqu'où j'irai. Peu importe, j'essaierai d'aller le plus loin possible. Je sens que je ne suis pas encore arrivé, mais je souhaite pouvoir interpréter ce répertoire, mais comme jamais dans ma vie, car en tout cas, il correspond actuellement à un désir émotionnel et d'interprétation qui surpasse tous les autres. Voilà, donc,
est-ce que ça surpasse la musique brésilienne?
Je préfère
les chansons.
Oui.
Ah, c'est vrai?
Oui. Ouais, je préfère, même si j'ai toujours beaucoup de plaisir à interpréter de la musique brésilienne et la musique anglo-saxonne et espagnole, tout ça et tout, mais ce que j'interprète actuellement, c'est ça prend le dessus sur toutes les autres répertoires que je peux interpréter. Oui.
Ah, d'accord.
Ouais. Je voudrais. Alors, je veux pas ne chanter que du Barbara, parce que son répertoire et effectivement et les thèmes qu'elle qu'elle décrit sont quand même tristes, sont émotionnellement, sont quand même assez bouleversants. Et j'avoue que ça me fait du bien.
Je dirais que c'est plus bouleversant que triste.
Sont bouleversants.
Plus que triste.
Et donc, quand j'ai fait quelques concerts autour de Barbara, ça me fait un bien inouï de chanter de la musique brésilienne.
C'est pas pareil.
Pour me gorger un peu de cette chaleur et de cette énergie. Enfin, j'aime bien effectivement naviguer entre ces univers qui me permettent d'extérioriser mon affect, en fait, tout simplement, que ce soit la tristesse, l'amour, la nostalgie, toutes ces émotions qui a.
Et pour le moment, il n'y a pas une autre artiste femme qui.
Que j'ai envie d'interpréter.
Oui.
Non, c'est marrant
vous
parce
que.
Vous
n'avez pas regardé un peu
hein. Non, mais il y a pas mal d'amis qui me disent ah, tiens, ça serait bien que tu interprètes ça.
On l'a posé déjà.
Oui, systématiquement. Je leur dis oui, je vous remercie du conseil, mais pour l'instant, j'ai envie d'interpréter que du Barbara. Donc, il y a plein d'artistes, on me dit Anne Sylvestre, ça serait bien, c'est magnifique. Mais il y a plein d'artistes qu'on peut interpréter, mais après, ça rime à quoi. Enfin, je ne peux pas. J'ai pas envie. Envie de me disperser.
Vous consacrer vraiment.
Oui, j'ai envie de rentrer dans cet univers car celui-ci me correspond.
Parce que vous n'êtes pas encore rentré totalement dans son univers à Barbara, peut-être.
Je ne sais pas. Je ne fais que suivre le désir qui s'est installé en moi que d'interpréter son répertoire et de le partager avec le public pour vivre ensemble des moments d'émotion intense. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé actuellement sur les quelques concerts que j'ai pu faire. Et c'est quelque chose qui ne peut que s'agrandir et s'épanouir avec la pratique et la familiarisation de la pratique de ce répertoire sur scène. Car c'est quand même, pour moi, émotionnellement, c'est lourd, c'est dur. Je sais qu'à chaque fois, les quelques moments avant de rentrer sur scène, mais je ressens une douleur dans mon corps et dans ma tête en me disant « mais je suis folle, pourquoi tu fais ça ?» C'est dur, j'ai peur, j'ai une peur terrible.
D'interpréter Barbara ?
Oui, de rentrer sur scène et puis d'interpréter ce répertoire, car c'est...
Parce que vous pensez à Barbara ? Vous la voyez, elle, sur scène ?
Non, je ne peux pas dire, mais je me sens investie. Enfin, interpréter Barbara, on ne peut pas mal... Enfin, ce n'est pas que je le fais bien, je pense bien le faire et très bien le faire, mais on ne peut pas mal le faire, donc...
Ah bah non.
S'engager sur scène auprès d'un public qui vient nous voir pour qu'on leur interprète un répertoire de Barbara...
Il faut que ce soit parfait.
Il faut que ce soit... magnifique. Il faut que l'émotion soit au rendez-vous et que la symbiose avec le public autour de ce répertoire soit là. Et donc effectivement, ça donne un cran supérieur sur le plan émotionnel au niveau du trac, parce que cet enjeu, il est très, très important. Donc effectivement, c'est un élément qui, je pense, contribue à me terroriser avant de rentrer sur scène. Mais bon, par contre...
Oui.
Une fois qu'on s'installe, que la musique sonne et qu'on commence
à chanter
et qu'on fait abstraction de tout le reste.
On fait le vide.
On fait
intérieur.
Abstraction de tout le reste et on s'immerge dans cette bulle d'émotion au travers de chacun des textes. Et là, c'est un plaisir, mais extraordinaire.
Qu'est-ce qui se passe là ?
Ah, c'est extraordinaire.
C'est indescriptible, on peut pas le...
Pour moi, ça fait partie des plus grandes joies de la vie que de faire ça. Il y a beaucoup de joie. Mais là, quand on arrive à exprimer ce qu'on a au fond de soi et de le communiquer avec le public et de continuer à perpétuer, en fait, perpétuer en fait.
Ouais. Ouais.
Ah, j'ai une absence. Bref, Barbara, au travers de ses textes, c'est lui rendre hommage et lui rendre honneur. Je le fais avec un respect et une humilité infinie vis-à-vis d'elle qui continue. Je me dis en fait, Barbara, au-delà de toute frontière, elle continue à nous inspirer.
Bien sûr.
Et donc, c'est extraordinaire. Enfin, cette personne est extraordinaire.
La
et donc, moi,
dame...
je le fais avec, en toute humilité, je le fais à ma façon. Mais venez écouter.
La longue dame brune.
Oui, oui. La longue dame
chanson
brune.
Avec, avec Moustaki.
Oui.
Ouais. Qui était aussi un grand ami de Barbara.
Oui, 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 tout à
sûr,
fait.
Hein.
Tout à fait, tout à fait. Bon, écoutez, je ferai ce que je peux, du mieux que je peux. Mais
ah ben, on le sent, hein, de toute façon.
Oui, mais
La motivation de Nina, c'est extraordinaire, quand même.
Ouais, ouais, c'est une belle aventure. Merci de m'avoir invité pour en parler, parce que quand même bien pour moi de pouvoir l'exprimer.
Quand on en a parlé, j'ai dit Barbara, bien sûr.
De pouvoir l'exprimer.
Bien sûr.
Et j'espère que j'aurai l'occasion de fois.
On va lancer encore un appel, hein, si des directeurs de salles sont intéressés par le spectacle de Nina.
Un immense plaisir que de partager ça avec un public en toute...
Est-ce que le public est nécessaire pour vous?
Ah oui.
Oui,
oui. Oui, 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 oui. Je peux chanter simplement chez moi, ça ne me suffirait pas. J'ai besoin de... Enfin, depuis que je chante...
Il y a une communion avec le public.
Oui, 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 oui. Et j'en ressors. Alors, autant avant de rentrer sur scène, je suis terrorisée. J'ai mal dans mon corps et dans ma tête. C'est une épreuve. C'est une très grande épreuve. Mais quand le concert se passe et qu'il se termine, mais je suis dopée, je suis animée d'une énergie, d'une joie, d'une intensité incroyable. Et donc, je pense qu'on doit sécréter des endomorphines.
Bah, ça se voit, je vois, là.
On doit sécréter des endomorphines. Et je n'ai qu'une envie, malgré la terreur d'avant la rentrée sur scène,
incroyable.
Je n'ai qu'une envie, après, c'est de revivre ces moments-là, parce que on est sur une autre planète.
Et à chaque fois, c'est un public différent.
Oui, oui, oui. Oui, oui, oui,
des
oui,
réactions
oui.
différentes.
Oui, oui, oui. Oui mais le point commun à...
Il y a un point commun
depuis que j'interprète ce répertoire autour de Barbara, c'est qu'il y a une bulle d'émotion et de qui s'installe, bouleversante pour le public comme pour moi. Donc il y a quelque chose de très intense qui nous prend aux tripes, qui est là, qui est différent des répertoires, des autres répertoires que je peux interpréter, qui sont très très chouettes, même, enfin, au niveau de la musique brésilienne, il y a beaucoup de morceaux qui sont très 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 chouettes, mais c'est différent. On navigue sur d'autres émotions, sur d'autres vibrations, mais là, dans le répertoire de Barbara, on s'enferme, le public et moi, dans une bulle imagée, parce que je fais vivre à ma façon, de façon très épurée. Je suis toute seule sur scène avec mes musiciens qui m'accompagnent, mais en toute sans s'imposer, mais avec leur talent extraordinaire qui me permet de faire résonner comme je désire les émotions qui traversent chacune des chansons. Mais voilà, c'est très épuré, en fait, la façon que je conçois de restituer ce répertoire et de l'interpréter sur scène. C'est voilà, je suis sur scène toute seule, entourée de mes musiciens, et on partage ça avec le public.
Et voilà. Alors, on dit la longue dame brune, enfin, elle était toujours habillée en noir, en fait.
Oui.
Hein. Et je trouve que, toujours habillée en noir, son piano noir,
oui.
Vous voyez que les touches blanches,
oui.
Et puis son visage,
oui.
L'essentiel est dit.
Oui, oui, oui.
Barbara,
alors, mais ça, c'est Barbara. Et moi, je ne ressemble absolument pas à Barbara.
Non, mais ça va. Je veux dire, c'est... sa tenue vestimentaire, son physique, le piano.
On contribue
Je trouve que ça va bien avec ses textes.
Tout à fait.
Avec
ses
textes et sa musique.
Tout à fait, tout à fait.
On ne la verrait pas habillée autrement.
Bah,
on la verrait pas habillée avec bleu, vert.
Mais on l'a apprise comme ça, on l'a découverte comme ça. Donc elle nous a entraînés dans son univers avec cette façon de se positionner, de s'habiller sur scène, cette élégance, cette...
Elle était très élégante, hein,
Enfin, moi, sur ce plan-là, sur scène, ça sera tout
quand
à fait différent.
Dans le film de Jacques Brel, France, elle était aussi habillée de cette façon, hein, sur la plage,
à
un moment donné.
Oui, tout à fait, cette longue silhouette... tout de noir vêtu, avec cette élégance, cette...
Donc moi, le portait bien.
Oui, il le portait bien. Donc effectivement, moi, ça sera un autre visuel.
En fait, c'est un tout.
Visuel.
En fait. quand elle chante, habillée comme elle habille le piano, les touches du piano blanches et noires, son visage blanc.
C'est un portrait en soi-même. C'est un portrait en soi-même. Déjà, rien que cette image nous fait penser à elle.
Elle va à l'essentiel.
Oui.
Elle va à l'essentiel, elle ne fait pas de fioritures. Enfin, je ne pense pas que c'était le personnage à faire des... qui allait à l'essentiel, en fait. Et on le sent dans ses textes, sa musique aussi.
Alors moi, je ne m'interdis pas de mettre de la couleur. Je ne sais pas. Je vais effectivement le vivre à ma façon.
Il faut garder votre personnalité.
Tout à fait.
Bah oui, on ne va pas du copier.
Tout à fait.
Parce que sinon, ça n'a pas de sens.
Oui, tout à fait.
On ne va pas imiter Barbara.
Non.
Ce n'est pas le but.
De toute façon, je ne suis pas du tout... structuré et formaté de cette façon-là, donc ça sera effectivement avec ma façon d'être et je vous promets, on ne sait pas de quoi la vie sera faite, je vous promets de vous emmener dans un voyage empreint d'émotions lorsque certains auditeurs auront l'occasion de pouvoir assister à mes concerts qui, j'espère
qu'il y aura beaucoup d'auditeurs.
Oui.
Qui seront
de plus en plus nombreux, j'espère.
Bien sûr.
On ne sait jamais, on verra. Si les étoiles, à un moment donné...
Donc actuellement, ce qu'on trouve dans les bacs, c'est la musique brésilienne.
On trouve dans les bacs les quatre albums, en fait.
Aquarela.
Alors, Aquarela do Brasil et Viramundo, les deux albums de musique brésilienne, sont uniquement numériques, donc sont sur les plateformes.
Voilà. D'accord.
Et Enivrez-vous, mon album de chansons, de reprises de chansons françaises et dont je vous ai parlé, et mon album dédié à Barbara qui est sorti au mois de juin, là, Ma plus belle histoire d'amour, sont disponibles aussi chez les disquaires, à la Fnac, tout ça en fait. On peut se le procurer.
Et dans Enivrez-vous, vous avez interprété quelle chanson ?
J'ai interprété Hier encore, Sous le ciel de Paris.
Ah, d'accord.
Les amoureux des bancs publics. Les morceaux sont très, très chouettes. Très, très chouettes. Ça a été une belle aventure que de s'engouffrer dans cet univers de chansons françaises qui m'a amené jusque-là.
La chanson française, c'est quand même assez fabuleux.
Oui. Mais c'est marrant, en fait.
Tout à fait.
Et les textes sont...
Qui ont été repris par des très grands, Frank Sinatra, Elvis Presley.
Oui.
Il y a quand même beaucoup de... Gilbert Bécaud aussi.
Les textes sont riches, le parler est magnifique, est très imagé, la composition des chansons est magnifique, les musiques sont fabuleuses. Ça a été vraiment un tremplin, qui m'a amené à Barbara pour l'instant, donc je ne sais pas jusqu'où j'irai, mais comme je dis sur mon site, mon site niagueta.fr, je vous invite à un voyage, en tout cas au travers de mon parcours, de Tom Jobim à Barbara, qui m'a amené jusqu'à Barbara. Je ne sais pas si j'irai plus loin. Mais en tout cas, cette aventure...
Pour le moment, c'est l'aventure.
Cette aventure, on est en plein dedans.
Là.
Cette aventure autour de Barbara, je souhaite la vivre. On verra ce que la vie m'offrira et les possibilités que j'aurai.
Que des bonnes choses.
J'espère, je souhaite.
Que des bonnes choses.
Je souhaite. Je le souhaite. On verra.
Oui, c'est sûr.
Rien n'est jamais acquis.
Avec Barbara.
Rien n'est jamais acquis. Parce que ça dépend de tellement d'éléments qu'on ne maîtrise pas. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, je m'y attelle. Je fais tout ce que je peux de mon côté avec mes petits moyens.
Ce que j'admire chez Nina, c'est sa passion. C'est incroyable. On rencontre... je connais beaucoup d'artistes dans tous les domaines. Mais... en général, l'artiste est passionné. Bon, mais une passion comme ça, c'est quand même un peu plus rare, quand même.
Merci.
Telle passion
c'est
extraordinaire.
C'est une raison de vivre.
Une raison de vivre. On le sent. C'est extraordinaire. J'ai pas de mots, quoi.
Merci. Si vous la partagez, si je voulais la faire ressentir, c'est pas intentionnel.
Et moi, je suis prêt à venir voir un concert de Nina Guetta, qui mérite vraiment de faire des concerts dans toute la France.
J'espère.
J'espère.
Je le souhaite ardemment et je l'espère. Vous voulez pas passer un autre morceau?
Ah, on va passer un petit morceau de Marianne Bad.
Marianne Bad.
Marianne Bad. On a juste un, voilà, juste un petit morceau.
Sur le grand bassin du château de l'idole, un grand cygne noir portant rubis au col, dessiné sur l'eau de folles arabesques, les gargouilles pleuraient de leur rire grotesque. Un Apollon solaire de porphyre et d'ébène attend des pygmalions assis au pied d'un chêne. Je me souviens de vous et de vos yeux de jade, là-bas Marianne Bad, là-bas Marianne Bad. Mais où donc êtes-vous? Où sont vos yeux de jade, si loin de Marianne Bad, si loin de Marianne Bad?
Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie dans le livre journal des Beaux-Arts. Donc aujourd'hui, je reçois Nina Guetta, thème de l'émission. Nina Guetta chante Barbara. On arrive au terme de l'émission, en fait.
Déjà,
ça a passé.
Oui,
j'ai pas pu passer.
Oui, oui.
En fait, 1h30, Nina a une telle passion, un tel engouement. Il n'y a pas de mots, quoi. Et donc, je lui laisse ce dernier mot pour la fin. L'émission.
Eh bien déjà, je vous remercie de m'avoir invité, ouais, pour m'avoir permis de parler de cet album qui est pour moi une chance dans la vie que d'avoir pu dédier un album à Barbara, avoir osé chanter Barbara, oser chanter les textes de
oser.
Cette grande
dame. Il
n'y a
dame. Que celui qui fait rien qui prend les plus grands
et
risques.
Tout à fait. Et donc, pour moi, cet album est magnifique. Je vous le dédie et mon plus grand souhait, c'est de pouvoir l'interpréter sur scène comme jamais sur ce parcours de vie qui est le mien et de pouvoir partager cet univers absolument bouleversant qui est celui des textes de Barbara avec le public, avec vous, au travers d'arrangements, comme je le disais, qui sont absolument magnifiques. Cet album a été réalisé sous la direction de Yann Viette et j'interprète effectivement au violoncelle et à la guitare, avec Yann Viette et Olivier Soubéran, et parfois aussi au piano avec Julien Collère. Voilà.
Chers auditeurs, on arrive à la fin de l'émission, donc je veux remercier Benoît à la technique, parce que je ne veux pas assez souvent, mais sans Benoît, l'émission n'aurait pas lieu. Donc voilà, on remercie Benoît, Nina, c'était fabuleux,
merci.
Franchement fabuleux. Donc,
vous venez d'entendre le Libre Journal des Beaux-Arts créé par Christian Langlois, dirigé par Michel Colombin, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mardi 25 août 2026, de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.